je ne sais pas s'il y a un fond de réalité, qu'il y avait un train avec du matériel, avec des amplis Marshall et du matériel de musique qui était resté en gare à Givors sur une voie de garage et qui avait été dévalisé par des musiciens locaux parce que tous les groupes de Givors avaient des Marshall, ça coûtait la peau du cul à l'époque. C'est comme les mecs maintenant qui s'achètent des BMW alors qu'ils ont pas de rond. Là, ils avaient tous un super équipement. Parce que c'est un peu l'ampli symbole de la musique qui se pratiquait à Givors. À Givors, tous les groupes avaient le même ampli. Le même but, c'était d'avoir cet équipement qui était l'ampli mythique qu'utilisait déjà Hendrix. Quoi. Donc c'est à travers cet ampli, moi, que j'identifie un peu le son de Givors. Et on disait qu'il y en avait un wagon entier qui avait été oublié ou dévalisé quelque part à Givors pour que tous les groupes soient ainsi équipés. Quoi.
Robert Lapassade, chanteur du groupe Killdozer.
Quand tu descendais au sud, tu allais vers Givors ou Saint-Étienne ou Vienne. Dès que tu arrives à la hauteur de Chasse, il y avait une odeur, une puanteur, parce qu'il y avait une usine d'os, des carissages à l'entrée de Givors, où après ils font de la colle ou ils font je sais pas quoi avec ça, mais ça dégage une odeur de cadavre pourri, c'est infect. Cette usine, elle est quand tu passes quand tu arrives de Lyon, tu prends la bretelle d'autoroute, tu passes un pont. La première usine qui est à droite, là, qui existe toujours, mais qui doit être recyclée en autre chose. En tout cas, c'est celle-là qui dégageait le plus. Nous, on répétait un peu plus bas, le long du Rhône, dans les anciens abattoirs, qui sont maintenant une salle des fêtes. C'est là où étaient concentrés les groupes pour répéter, et donc c'était un terrain vague au bord du Rhône, avec les usines chimiques qui sont de l'autre côté, l'usine qui est 300 mètres plus haut sur la même rive. Donc c'est un univers très industriel, oui. Puis de toute façon, toute la vallée du Rhône, quand tu la descends de Lyon, du sud de Lyon jusqu'à Givors, c'est quand même très, très marqué par les usines. Il y a beaucoup d'entrepôts, c'est une plaque tournante avec la vallée du Gier. Moi, en fait, j'étais venu déjà à Givors avant en accompagnant Jacques et Jean-Yves Astier qui venaient de Lyon. Moi, je les connaissais à Lyon. Je traînais un peu dans le coin. Je chantonnais vaguement dans un groupe à Lyon, mais j'étais pas très. Et j'étais attiré par ce qui se passait à Givors au niveau du rock, justement. Il y avait un contexte particulier. Les locaux de répétition, c'était. Quand c'était avant la Bambane, c'était aussi la MJC, donc le long de l'autoroute, là. Au rez-de-chaussée, il y avait une grande salle. Les mecs de Givors, ils étaient là comme au spectacle. Enfin, les mordus venaient assister à la répète de Ganafou. Quand tu répétais en semi-public. Mais les mecs disaient rien, ils étaient dans le noir, branchaient pas un mot, ils intervenaient pas, ils regardaient, quoi. Ils fumaient des clopes, parce qu'on avait le droit de fumer à l'intérieur. Et des pétards. Et ils nous regardaient répéter. Moi, c'était glaçant d'ailleurs quand t'arrivais. Les premières fois qu'on a fait des répètes, c'était l'impression de passer une espèce d'examen, quoi. Et dans l'attitude qu'il faut avoir et dans ce que tu fais en musique. Oui, ils gardaient leur distance, quoi. On n'avait pas les mêmes codes. Il y a presque un patois givordin qu'ils utilisaient pas mal à l'époque. Nous, les Lyonnais, donc à Lyon, on s'emmerdait, il n'y avait pas de rock, il y avait de la musique progressiste. Ici, Lyon, c'était la terre l'arfi, le grand rouge, la chanterelle, le folk, et les musiques progressistes, Sphéroé, Pulsar, mais du rock and roll, il n'y en avait pas.
Là, tu parles des années 70, on est où ?
Ouais, je dirais 74 à 80, quoi.
D'accord.
En gros. Si on voulait entendre des Marshall trois corps monter à fond, des doubles batteries comme on a, où on avait Babs, double grosse caisse, etc., des choses heavy, et ben, il fallait aller à Givors. Et c'était vraiment là, pour le coup, un cas particulier. C'était dans l'histoire du rock américain, tu sais, t'as des villes, t'as des styles, comme on n'a pas spécialement en France d'ailleurs, on n'a pas retrouvé l'équivalent. Le Havre, la Normandie, t'es un petit peu leader en rock à une époque, avec Little Bob Story, avec les Dogs, des groupes comme ça. Donc ça leur donnait un style, mais c'est... Paris n'a pas vraiment jamais eu un style, beaucoup de groupes, mais pas un style particulier. Lyon, si, on pourrait dire que c'est un peu New Wave, Cold Wave à un moment, un peu le style majoritaire, mais il n'y a pas vraiment eu d'école comme ça, locale, régionale. Alors qu'aux États-Unis, il y avait, quand tu voulais du hard rock, tu allais à Detroit, par exemple, qui était la ville industrielle, ouvrière, les usines de bagnoles, et, comme par hasard, c'était là que sont formés les Stooges, les Amboy Dukes, tous les groupes de hard heavy vraiment velus. Et donc, on pourrait dire que Givors était un peu le Detroit de Lyon, si tu veux. Full speed ahead. Donc Gun A Fool, qui était un trio, qui était un quintet au départ, un groupe de heavy boogie, on va dire. Ça veut bien dire boogie d'un côté et heavy de l'autre, c'est-à-dire très blues. Toutes les racines des morceaux sont blues. C'est d'ailleurs pour ça que Jacques Bon, qui continue à faire de la musique, fait du blues, parce que c'est sa musique à la base. Mais on l'électrifie, on met des riffs au lieu de faire du picking. Et Factory, eux, ils étaient très impressionnés, notamment Matra, par Mick Jagger et les Stones. Et qui sont d'ailleurs rendus célèbres à Givors en un concert dont on a dû te parler au Palais des Sports de Givors, qui est organisé par Pietro Colla, le directeur de la piscine. Et après, je le connais peu, Matra, je le respecte parce qu'il fait quelque chose toujours maintenant et c'est un vrai artiste, c'est-à-dire qu'il est barjot, quoi, et totalement. Voilà, donc Factory, c'était ça, un rockstonien. En français aussi, ça qui était l'avantage sur Gun A Fool. Nous, on avait un truc particulier, c'est qu'on faisait un mélange de rock, heavy, le guitariste était un fondu de Johnny Winter, de gens comme ça, et d'Aerosmith, etc., et de musique black, soul, funk. Et donc, on a fait un espèce de mélange pas courant, et toujours pas courant d'ailleurs, donc ça doit être un peu trop bâtard pour vraiment fonctionner, je pense, ce mélange. Entre la musique noire et le rock blanc. On dira qu'il y avait ce que jouaient les jeunes rockers blancs, et puis ce qu'appréciaient les maghrébins, les immigrés, les africains, les antillais, c'est-à-dire la soul, puis après le funk un peu plus tard. We'll be right back. Lyon, une ville un peu bourgeoise, industrielle aussi, laborieuse, mais on n'entendait pas trop parler jusqu'à ce que Vénitieux, les Minguettes se réveillent, on n'en entendait pas vraiment parler. La musique Lyon intramuros, c'était plutôt bourgeoise. Marie et les garçons, les trucs Calas. Et tout ça pour dire que Givor avait une identité particulière en étant, en gros, d'ailleurs, un peu déjà hors mode, un peu décalé. Enfin, on était en plein dedans, mais ils n'étaient pas progressistes du tout, et c'est ce qui fait partie de la côté tragique de l'histoire des groupes de Givor, on va dire, c'est que ça n'a pas dépassé un certain niveau, qui est d'ailleurs déjà important par rapport à la taille de la ville, parce qu'il y a au moins trois groupes qui en sont sortis, importants, mais ça a été écrasé un peu dans l'œuf, étouffé dans l'œuf, parce qu'il y a eu la New Wave, il y a eu le punk, il y a eu tous ces trucs qui ont considéré que le hard, le rock de base des années 70, c'était acheté, quoi, c'était has-been. Et Givor, ils étaient has-been complètement, pas de def, Lewis, enfin tout en dénime et cheveux longs et des barbes.
Il y avait le creuset commun dont ils étaient issus, il y avait ces circulations entre les groupes, et puis il y a ce destin commun qu'ils ont eu d'une certaine manière, qui est un destin... Voilà, ils ont émergé à un moment donné sur la scène nationale, mais ils se sont retrouvés un petit peu, je dirais, broyés dans le système du showbiz auquel j'ai l'impression que ni les uns ni les autres n'étaient préparés.
Philippe Bourdeau.
Donc ils ont émargé à des labels qui leur ont permis, notamment Factory chez Pathé Marconi, de produire des disques, d'avoir une forme de visibilité. Mais on peut se demander si les labels les ont signés pour les enterrer ou parce que, enfin, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ils n'ont jamais vraiment franchi le cap d'une sorte de visibilité nationale, même s'il est vrai que quand on regarde la richesse des scènes musicales dans tout un tas de villes en France, Givor n'a rien de particulier, hein. Je pense que ce qui est particulier à Givor, c'est que c'est une toute petite ville, et qu'effectivement, alors, parce que si on va regarder du côté de la scène bordelaise, de la scène nantaise, etc., on va trouver des myriades de groupes de rock. Tout compte fait, à Givor, il n'y en a pas autant, évidemment, mais il y en a eu quand même trois qui ont eu une visibilité nationale. À un moment très précis. Peut-être que de ce point de vue-là, il y a une originalité givordine dans ce contexte très précis, très étroit. C'est-à-dire 5 ans pendant lesquels trois groupes sortis de nulle part, d'une ville que personne ne connaît, ont une assez bonne visibilité nationale. Je crois que c'est ça.
C'est sûr que ça n'est pas... Oui, c'est une musique d'insurrection, quoi.
Yves Matra, chanteur du groupe Factory.
Et parce qu'elle elle est dans sa nature, elle électrifie des instruments. C'est insurrectionnel d'électrifier un instrument. Parce qu'elle crie au lieu de toujours chanter, et c'est insurrectionnel de crier plutôt que de toujours chanter. Parce qu'elle est post-68, tout de suite post-68. Et le rock est post... Enfin, ce rock-là est complètement post-68 art, quoi. avec la possibilité d'aller dans l'outrance très fort. Il y a une radio aussi assez vite à la maison. Et puis très vite aussi, j'étais tout petit, il y avait des choses interdites. Il y avait la guerre, il y avait l'Algérie. Mon frère aîné est parti à la guerre d'Algérie. Et il y avait le déserteur, et Mouloudji. Il y avait les chansons de Brassens qui ne passaient pas à la radio parce que mon grand-père ne voulait pas qu'on entende ça. Le déserteur, par exemple, il ne fallait pas qu'on entende. J'avais 10-11 ans. Mais n'empêche que on sent que c'est Janus, quoi. On ne sait pas ce que ça veut dire. On apprendra 20 ans, 30 ans plus tard que de l'autre côté de la porte, il y a aussi un autre regard des choses. Donc j'entendais que et la musique représentait une espèce de puissance, de force qui quelque part faisait bouger l'écran. Voilà. Et puis alors, il est clair qu'en ce qui me concerne, il y a un énorme phénomène d'identification qui se produit quand même avec... du côté de 1967, quand j'entends Jumpin' Jack Flash, j'allais dire que le rock'n'roll devient, à travers le personnage de Mick Jagger, la possibilité à l'étoile de mer de sortir ses tripes. Voilà.
Mais moi, quand je te parlais de Detroit, l'analogie entre Détroit, Michigan et une ville comme Givors, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y avait de l'industrie là-bas, des ouvriers, pas beaucoup de fric, une ville communiste en plus, à l'époque, qui encourageait quand même tout ce qui se faisait un peu dans la jeunesse. C'était son rôle. Et tout ça a fait que c'est né là, plus particulièrement... Je pense que ça pouvait pas naître de la même façon à Lyon Centre, intramuros, boulevard des Belges. Hein. Donc oui, immigré, ouvrier, parti communiste. Ces trois ingrédients qui ont fait que ça démarre à Givors aussi en particulier, je pense. Après, c'est comme partout, hein, il suffit qu'il y ait un type, un ou deux. Quel est ce gourou à Givors, je sais pas. Mais moi je pense, et pour avoir tourné beaucoup avec les groupes, on s'en est rendu compte que tu as les équivalents dans l'Est, du côté de Belfort, dans toutes ces villes où il y a à peu près la même histoire, avec la même immigration, les mêmes usines, on retrouvait les mêmes choses. Ça a toujours été une petite ville de merde, hein, quand même, il n'y a rien, j'y vais, c'est vraiment moche, il n'y a rien à sauver, on va dire, pas grand chose. Mais ça, c'est pas important, c'est ce que vivent les gens à l'intérieur qui compte. Hein. Et donc à un moment, il y a quand même eu un... Si ça a eu lieu là-bas, c'est qu'il y avait ce bon mélange justement de monde ouvrier, d'immigrés, de plein d'ethnies différentes, de plein d'origines différentes, parce que, hein, on le disait tout à l'heure, on parle beaucoup des Maghrébins, mais il y avait énormément d'Italiens, d'Espagnols, d'Arméniens, qui, ce mélange-là était positif, ça provoquait, les gens apparemment s'entendaient, il n'y avait pas de conflit particulier, la ville avait des marchés comme on n'en voyait jamais à Lyon. Ouais, c'est le côté positif des villes. Je pense qu'il y avait peut-être eu, moi je l'ai connu, moi j'ai aucun souvenir, j'en connaissais aucun. Et je pense qu'il y avait une bonne municipalité aussi, hein, à l'époque, qui a du bien. Mettre les gens ensemble, je sais pas.
Ben, ça dit que ça traduit un lieu un peu d'humanité, quoi. C'est-à-dire qu'on retrouve, on sent pas qu'il y a d'exclusion, quoi. C'est-à-dire que les gens de Givors, à partir du moment où ils savent faire de la musique, ils se retrouvent, ils font. C'est le critère, c'est pas l'origine, etc. Donc on trouve dans ces groupes tout ce qui s'est passé dans cette ville.
Ali Mekerbech.
Sur le plan des mouvements humains, des flux migratoires, on trouve Zahid, des Italiens, Edouard González, c'est espagnol, puis c'est Kabyle, Matra, il est paysan. Enfin bon, du coup, on retrouvait la jeunesse givordine à travers cette diversité dans ces groupes. Et dans le public, on retrouvait cette rencontre entre un public jeune, ouvert à ce qui l'entourait, et puis qui ressemblait à ceux qui étaient sur scène. Ouais. Et on a cette espèce de réunion comme ça, que la musique et parfois le sport peuvent offrir, mais qui était aussi givore dans le sens où, même dans les entreprises, nos parents, qui n'étaient pas des musiciens, ils faisaient autre chose comme activité, puisqu'ils bossaient dur. Et ils se retrouvaient entre eux dans les boîtes. Et donc, voilà, à travers ça, on a vraiment le reflet des silhouettes qu'on croise dans Givors.
Il y avait une forme de tissu local qui a accueilli ça avec bonheur, parce que c'était un vrai besoin, je pense, culturellement, de la jeunesse, d'avoir d'autres formes d'identification que celle de peut-être de l'usine et du PC, quoi. Et ça allait avec tout le mouvement. Givors était enfin relié au monde d'une certaine manière à travers ça. Et à travers des modes de vie plus hédonistes, moins tournés vers le travail et vers la culture du travail, et avec une forme d'accès à des temps qui étaient des temps de convivialité, de jeu. Il y avait effectivement ce contexte d'un changement culturel à Givors lié au changement d'économie, hein, et puis changement de société aussi. Le fait qu'il y avait une fascination de la part de ces jeunes pour le rock américain et les grandes figures emblématiques du rock, que ce soit les Doors, les Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, etc. Enfin, chaque musicien a sa petite mythologie personnelle, mais globalement, ils se retrouvaient beaucoup là-dessus. Hein. Et du coup, l'acclimatation du rock à Givors, elle est, à mon avis, à chercher du côté de cette espèce de mise en relation entre un local en train de... un contexte local qui va être secoué par la crise, qui est secoué par les évolutions sociales. En gros, voilà, l'église, le PC ne tiennent plus la jeunesse, quoi, mais à Givors comme ailleurs. Et du coup, il y a une forme d'appétit pour d'autres références, pour d'autres choses. Peut-être qu'il y a un contexte aussi très fort à Givors qui est celui de l'immigration, et qui est notamment lié au fait que dans Factory, plus que dans les autres groupes, il y a eu une présence de musiciens issus de l'immigration. Oui, voilà, moi je pense que le rock agivore dans ces années-là, c'est un peu l'expression des changements d'une identité culturelle, économique, sociale, locale. Moi je dirais sur fond de rejet de l'assignation à la condition ouvrière, et puis dans le contexte de désindustrialisation. Il y a un peu tout ce truc-là. Alors bien sûr, ça s'appuie sur les sociabilités existantes. On pourrait dire la culture ouvrière, on pourrait dire des structures associatives et communales, puisque les groupes ont été accueillis à la MJC. La municipalité leur a donné des coups de main logistiques. Mais en même temps, par opportunisme, ils s'appuyaient là-dessus, mais ils ne se laissaient pas assigner à ça non plus, hein, d'une certaine manière. Moi, j'ai toujours senti quand même... Alors, là encore, chez Factory, il faudrait voir les autres ce qu'ils en disent, l'expression d'un sentiment d'appartenance à Givor. C'est-à-dire qu'il y avait quand même l'identité givordine, elle se perpétuait dans les changements à travers... peut-être cette forme de conscience de même si on récuse un certain nombre de choses qui font l'identité givordine, on y reste quand même très 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 lié d'une certaine manière.
Je crois que nous en étions à ce moment où la conscience des groupes, enfin la conscience c'est un bien grand mot, hein, mais le fait d'utiliser d'où on vient, sa situation sociale, dans les textes, ses origines, c'est venu à partir des années 80, on va dire, pour les groupes locaux. Et avant, en fait, le rock, il exprimait ce qu'a tout longtemps exprimé le rock, c'est-à-dire pas grand-chose, des trucs de teenage, de teenager. Quand on faisait des textes en anglais, on essayait déjà de pouvoir faire des phrases qui tenaient debout, donc après, y mettre du sens en plus, fallait quand même pas trop pousser mémé. Et cette conscience de classe, du coup, ça passe par là aussi. Enfin, on parlait de ce Givor qui était... parlait ou pas du fait qu'ils étaient fils d'immigrés ou d'ouvriers ou les deux, dans une ville en tout cas industrielle ou ouvrière, c'était pas leur problème, ils avaient pas envie de parler de ça. Et c'est les plus grands fans d'Otis Redding, de Jimi Hendrix et de James Brown que je connaisse, puis après de Bob Marley, c'est des Marocains ou des Algériens d'origine, quoi. Et quand on parle de musique traditionnelle avec eux, ça les branche pas du tout. Enfin, ça les concerne pas. C'est venu vachement après, avec les années 80. Rachid, carte de séjour, ils ont commencé à lancer d'autres idées, pas musicalement spécialement d'ailleurs eux, mais d'autres manières d'appréhender ses racines. Et il y avait donc une notion plus poétique dans le rock avant. D'évasion, aller au-delà de sa situation réelle pour gamberger sur autre chose, sur l'Amérique, sur les voyages, sur l'amour, les excès, effectivement, la dope, tout ça. Voilà. Et cette poésie-là, quand tu te mets à parler en français, à exprimer donc des choses plus quotidiennes. Puis il y a aussi pendant ce temps la société qui continue, donc il y a eu une exaspération. Ceux qui étaient de la génération de puces, Farid à Vienne, le batteur de mon groupe plus tard, les Saint-Pin Boys, enfin bref, c'est ces mecs que je connais qui sont des immigrés, fils d'immigrés première génération. Eux cherchaient à s'intégrer et à incurgiter, à assimiler le monde qui les entourait, ce qui venait d'Amérique, etc. Ils étaient des éponges. Et la génération qui a suivi, c'est l'éponge quand on la presse, quoi. Ils ont rejeté tout ça. C'est sorti et ils ont cherché à revendiquer leur malaise, leur ras-le-bol, quoi. ce que les autres avant ne faisaient pas de la même façon. Ils étaient donc plus barrés avant, dans autre chose. Moins réaliste, sans doute, mais...
Avec les témoignages de Robert Lapassade, chanteur du groupe Killdozer, Philippe Bourdeau, Yves Matra, chanteur du groupe Factory, et Ali Mekerbech. Un grand merci à Puce Lami Saibi pour ses solos de guitare et à Gaël Lannes, archiviste à Givois. I'm upside down, they want me to answer. Les Marshals de Givors, un documentaire réalisé par Péroline Barbet, production CNTRA, avec le soutien de la ville de Givors, de la région Rhône-Alpes et de la DRAC. I feel so fine. People suffer at the Resin Bell. I prefer to Fatina. I feel so fine. People suffer at the Resin Bell. I prefer to Fatina. I feel so fine. People suffer at the Resin Bell.